France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, venez.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Le songe d'une nuit d'été au Festival d'Aix-en-Provence, Alcina à l'Opéra de Paris, Rusalka à l'Opéra Bastille, 35 ans de mise en scène dans toutes les capitales lyriques à travers le monde et puis quelques comédies musicales. Candide, Singing in the Rain, My Fair Lady au Théâtre du Châtelet, The Beautiful Game et Sunset Boulevard avec Andrew Lloyd Webber au Royaume-Uni et maintenant Cabaret au nouveau Lido 2 sur les Champs-Élysées. Il est metteur en scène demandé par les plus grandes scènes lyriques dans le monde. Bonjour Robert Carsen.
Bonjour Laurent.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vous qui programmez aujourd'hui la 42e rue de France Musique.
My father needs money, my uncle needs money, my mother is thin as a reed. But me, I'm sitting pretty. I've got all the money I need. My dearest friend Fritzy is out of his wits. He has four starving children to feed. But me, I'm sitting pretty. I've got all the money I need. I know my little cousin Eric is as credit is hysterical, and also cousin Eminette upon his mother's Eminette. My sister and my brother took a hawking one another too. But I've got some talents which build up my balance, or even my bankers agree that me, I'm sitting pretty. I've got all the money I need. My little cousin Eric is as credit is hysterical, and also cousin Eminette upon his mother's Eminette, and my sister and my brother took the hawking one another too. But I'm not an incompoop, I've got an income you put in the bank to accrue. Yes, me, I'm sitting pretty. Life is pretty sitting with, pretty sitting with, pretty sitting with you.
Joël Grey dans la production originale de Cabaret à Broadway, Sitting Pretty. Alors vous m'avez surpris, Robert Carsen, vous mettez en scène pour la première fois Cabaret. Cabaret reprend vie à Paris et je me disais, oh, vous alliez choisir plein de morceaux de Cabaret super connus, Ville Commune, Cabaret. Non, pourquoi Sitting Pretty, qui était un peu la chanson sur l'argent quand a été créé le spectacle à Broadway?
Mais nous, on fait la version où il y a Sitting Pretty, qui était une chanson sur l'argent, et aussi Money, qui est la deuxième chanson qu'ils ont adaptée. Il y a une version qui était faite en 87, où les deux chansons sont mises ensemble. Et moi, je pense que le sujet de l'argent est tellement important dans Cabaret, bien évidemment, puisque ça développe les événements de République Weimar bien avant, où l'inflation est devenue tellement folle qu'un morceau de pain coûtait 5 milliards de marques. L'argent n'avait plus de valeur. Donc c'est à cause de cela que ces chansons sur l'argent et sa valeur ou manque de valeur ont été développées pour Cabaret. Et je pense que c'était important et j'étais très attiré par la version avec les deux chansons pour prolonger encore plus ce moment important.
Et comment vous avez voulu le mettre en scène? On le voit au départ, votre MC, maître de cérémonie, Sam Buttrie, assis sur des lingots d'or.
Mais en effet, dans cette chanson, on voit Sam Buttrie d'abord devant et ensuite assis sur une toilette qui est complètement faite en or, sur un grand escalier de lingots d'or, puisque avec ce numéro, je voulais faire un peu hommage au spectacle de Lido avant, où il y avait toujours un escalier pour faire monter ou descendre les Bluebell Girls et autres. Et c'est devenu un élément très important dans les spectacles de Lido. Il y en avait d'habitude 3 ou 4 escaliers différents. Donc je voulais faire hommage à ça. Et je me suis dit que dans cette chanson qui s'appelait Money, on pourrait dépenser un peu de money pour faire un hommage.
C'est la première fois que vous vous attaquez à Cabaret. Pourquoi vous ne l'aviez jamais mise en scène jusqu'à présent? Je l'ai presque vous demandé.
Il y en a plein de comédies musicales que je n'ai jamais mises en scène. Je veux dire, il n'y avait pas l'opportunité de le mettre en scène, mais là, ça me semble l'idéal pour le théâtre, pour ce théâtre, pour le Lido, pour faire le changement de répertoire, que le Lido va devenir un lieu où les comédies musicales et peut-être d'autres spectacles vont être produits, vont jouer pendant quelques mois devant un public, et cabaret qui a a live band, bien évidemment, qui a beaucoup de moments très réjouissants et même extatiques de chorégraphie et de chansons, mais il y a aussi un contenu très sombre avec la montée du nazisme, avec la montée du fascisme, avec des idéologies très dangereuses qui, à mon avis, nous parlent beaucoup en ce moment. Dangereux pour la planète, il faut qu'on soit vraiment averti que les années 30 peuvent très très facilement recommencer, pas seulement en Europe, mais partout. Et donc, je me suis dit, c'était une œuvre qu'on pourrait monter, pas seulement en regardant historiquement aux événements de Berlin et autres, à la fin de la République Weimar, mais aussi de réfléchir à notre monde.
Robert Carson, on va explorer un peu avec vous votre rapport à la comédie musicale. Et alors, dans la liste que vous m'avez envoyée, il y a des petites étoiles pour dire ça, c'est hyper important, ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et alors, vous m'avez écrit, alors il ne faut absolument pas ne pas diffuser un extrait de La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat, représenté par le groupe théâtral de l'Hospice de Charenton, sous la direction du Marquis de Sade.
Le titre en anglais, c'est le plus long titre de pièce de théâtre. The persecution and assassination of Jean-Paul Marat, as performed by the inmates of the asylum of Charenton, under the direction of the Marquis de Sade.
Vous pouvez me dire en quelques mots de quoi ça parle?
Marat Sade met en relief très fortement les événements de la Révolution française, vus et revus par des aristocrates qui viennent à Charenton, l'asile, pour regarder comme ça, pour faire des visites de charité, mais qui, pour le coup, revivent toute l'histoire française de le pre- and post-revolution. Et donc, c'est une leçon d'histoire. C'est Hamilton avant la lettre, si vous voulez. C'est un genre qui n'existait pas avant et qui est un spectacle unique, mais qui est un spectacle très fort sur l'histoire et comment on peut le revoir et le revisiter.
Alors, on va écouter un extrait du film Marat Sade, puisque Peter Brook a adapté ensuite au cinéma sa pièce de théâtre musicale. Ça s'appelle le morceau 15 Glorious Years. En gros, Charlotte Corday s'apprête à assassiner dans son bain Marat. C'est ça le moment que vous avez
15
choisi.
15 Glorious Years, c'est après l'assassinat, c'est vers la fin, je pense, où on fait une histoire, on revoit assez rapidement l'histoire de ce qui s'est passé dans la Révolution. Et donc, il faut avoir all the 15 years, et pas seulement un petit peu. Et l'œuvre, quand on le voit, il y a un réel danger senti par le public. D'ailleurs, l'œuvre se termine par une espèce de bagarre incroyable où les gens sont tués, violés. Ça se termine avec un riot, comme on dit, une manifestation.
Une émeute. Hein.
Une émeute à la fin. C'est assez choquant même aujourd'hui quand on voit ça. Mais ça, c'est juste avant.
Now it is part of Sade's dramatic plan to interrupt the action so this man, Marat, can hear and gasp with his last breath at how the world will go after his death. With a musical history, we'll bring him up to date from 1793 to 1808! Now your enemies fall. We're beheading them all. Duperré and Corday, executed in the same old way. Robespierre has to get on. He gets rid of Danton. That was spring, comes July, and old Robespierre has to die. Three rebellions a year, but we're still of good cheer. Malcontents all have been taught their lesson by the guillotine. There's the shortage of wheat. We're too happy to eat. Austria cracks and then she surrenders to our men. Waiting for his yes. Soldiers we've got. Now the traitors are shot. Generals boldly take power in Paris for the people's sake. Egypt's beaten down flat. Bonaparte did that. Cheer him as they retreat. Even though we lose our fleet, Bonaparte comes back. gives our rulers the sack. He's the man, brave and true. Bonaparte would die for you. Europe's free of her chains. Only England remains. But we want wars to cease, so there's 14 months of peace.
Make me quiet, yeah.
Wants to fight us again. So we march off to war. Bonaparte is our emperor. Nelson bothers our fleet. But he's shot off his feet. We're on top, yes we are. And we spit on Trafalgar. Now the Prussians retreat. Russia faces defeat. All the world bends its knee to Napoleon and his family. Fight on land and on sea. All men want to be free. If they don't, never mind. We'll abolish all mankind!
Robert Carson, programme 42e rue, et cet extrait de ce spectacle qu'on appelle couramment maintenant Mara Sad, une pièce de théâtre musical qui a obtenu à Broadway en 1966 le Tony Award de la meilleure pièce de théâtre et la meilleure mise en scène pour Peter Brook. Vous aviez quel âge quand vous l'avez vu? Vous l'avez vu à la création,
oui,
Robert Carson?
Oui, oui, puisque moi je suis Canadien, né à Toronto, et mes parents allaient une fois par an voir des spectacles à Broadway, voir des expositions. J'ai eu la chance qui m'a amené depuis un assez jeune âge. Donc, je pense que j'avais 11 ans quand j'ai vu ça. Et j'étais incroyablement choqué. L'œuvre a été très, très, très choquant, mais très, très marqué par cette mélange de texte et musique. Et c'est ça que j'adore chez la comédie musicale. C'est que peut-être un peu contrairement à l'opéra, la musique dans des comédies musicales met vraiment en valeur la parole. À l'opéra, c'est différent, puisque très souvent dans les œuvres opératiques, le parole est important, il faut vraiment le travailler avec les chanteurs, mais ça n'a pas du tout le même sens de valeur qu'on a dans la comédie musicale, où le message est vraiment, vraiment, vraiment dans beaucoup de numéros qu'on entend. Et j'ai choisi des moments très souvent pas lyrique, puisque même le money, quand Sitting Pretty, on vient à quel point c'est important pour les artistes de pouvoir parler très très rapidement.
Alors on a l'exemple parfait là, parce que le choix que vous avez fait, le prochain choix, ça fait un peu mal aux oreilles, si je peux me permettre de dire aux auditeurs. Katharine Hepburn, elle avait 63 ans, je crois qu'elle chantait plutôt mal. On va l'entendre. Vous l'avez vu dans incarner Coco Chanel en 1970 dans une comédie musicale composée par André Prévin qui s'appelait Coco. Vous rappelez de quoi? Ça ressemblait à quoi?
Ah non, mais moi j'ai un souvenir absolument extraordinaire de cet événement, puisque j'ai vu, vous savez, à l'époque, beaucoup de spectacles de Broadway venaient essayer ou à Boston ou à Toronto. Ah. Ils avaient décidé de faire le try-out for Coco pendant plusieurs semaines dans un théâtre qui s'appelait le O'Keeffe Center à Toronto. Les décors et les costumes étaient de Cecil Beaton. C'était vraiment quelque chose. Et Catherine Hepburn, ça c'était un événement. Je suis allé voir, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire et elle m'a complètement bluffé. Je lui ai écrit une lettre et je lui ai envoyé un cadeau. Et 5 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone, ou plutôt ma mère recevait un coup de téléphone de la secrétaire de Catherine Hepburn qui a dit qu'elle voulait me remercier pour le mot et ce que j'ai envoyé. Elle me proposait de venir prendre le thé avec elle. Donc j'avais rendez-vous, je voulais être comédien, j'étais nerveux comme c'est pas possible. J'avais rendez-vous à son hôtel et une heure avant, autre coup de téléphone. Non, ça a dû changer, Madame Hepburn voudrait voir votre fils au théâtre. Elle propose de revoir le spectacle après qu'ils ont leur entretien. Donc, j'ai rencontré Madame Hepburn. Je me rappelle toujours, j'étais à l'extérieur de sa loge, la porte s'ouvre. Good to see you, good to see you. Come in, come in. oh, lovely, etc. Et puis c'était juste incroyable. Donc on a entretenu 10 minutes comme ça. Elle voulait tout savoir sur mes études et qu'est-ce que je pensais que j'allais jouer, etc. Et j'ai revu le spectacle et moi je l'ai trouvé absolument formidable.
Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme morceau ? Vous m'avez donné deux possibilités, The World Belongs to the Young ou The Money Rings Out Like Freedom. Je voulais choisir.
Well, The Money Rings Out Like Freedom est très intéressant puisque dans une chanson assez courte, elle montre comment elle a gagné la fortune en inventant des pantalons pour les femmes, en inventant la robe noire de deuil, en inventant ceci, cela. Ça montre le point de vue d'une femme moderne qui découvre toute seule qu'elle est capable de remonter sa boîte et de révolutionner le monde de la mode après qu'on lui a dit qu'elle était finie.
On est d'accord qu'elle chante pas super bien.
Elle, she does a sort of Sprechgesang. Je trouve ça très moderne, comme dans les spectacles de Kurt Weill où on parle sur les notes. Mais moi, je trouve qu'elle est quand même assez incroyable. Moi, je l'adore.
The revolution was on. Anytime the younger generation rebels, the rebellion begins in clothes. And the dresses in that shop were the firebrands that stormed the corset, cut open the laces, and freed women from the Victorian padded cell. And as I freed them, they freed me. Frank by Frank by Frank. Oh, the money rings out like freedom. Clink, clink, a jingle. That primitive sound is freedom to me. Free to parade up the rue de la paix up, as equal as I can be. Every franc in the bank is freedom. Clink, clink, they jingle. We live in a world where cabbage is king. So dime, mark, and krona, come make me your owner and let freedom ring. One day in May, the Duke and I let the tempers fly, and I told him whither to go and stay. So he invited to the next soiree a buxom boor for whom he bought a diamond bigger than a diamond ought to be. Did he? And I knew why, to make me cry, but I came wearing imitation junk, so large and gaudy that a diamond shrunk. The crowd went wild for the glass display, and costume jewelry was here to stay. What a coup! What luck! Tell the bank to send a truck. Oh, the money rings out like freedom. Clink, clink, a jingle. That capital tune is chiming. I'm free! My heart rejoices when I hear invoices that sing out so solvently. One spring, the king of I forgot exactly what picked the Grand Canal to have a fete which no one there ever will forget. All the rich and famous in the great corral saw me tumble in the Grand Canal. It's true, my shoe ensnared my gown, and I went down and down in Venice means really under, which made me wet and made me wonder, would this have happened if by some chance instead of a gown I'd worn men's pants? Then soon all the sisters and the cousins and the aunts were calling me the pirate of men's pants. What a stroke! How divine! Call me up in Liechtenstein! Oh, the money rings out like freedom. Clink, clink, they jingle. A queen with a lot of jack is a king. So Kopeck and Lira, come nearer, nearer, and let freedom ring. Alex died without a word of warning. To friends I cried, I'll put the world in mourning, and out of the depths of my distress came the basic little black dress.
Thank you. gone. What a shame. What a hit that dress became. Oh, the money rings are like big drums. Clink, clink, the jingle. Translated, it means I can't tell no more. Up goes the income and out go the lingam. Books I had to please before. All the pelt on the shelf is freedom. Clink, clink, the jingle.
But one he retires.
But think of this maxim and put off your sorrow. The rich of today may be happy tomorrow.
Le final de l'opéra des Gueux, The Beggar's Opera, choisi aujourd'hui par Robert Carson, invité de la 42e rue, dans une version que vous avez choisie. Vous avez choisi ce titre, c'est le final. On en parlait tout à l'heure de l'opéra des Gueux. C'est quelque chose qui est aussi important pour vous, cette...
Moi, je considère The Beggar's Opera comme la première comédie musicale, puisque c'était un mélange des chansons populaires connues, venues de partout dans Grande-Bretagne, et des chansons populaires écossais, gallois, irlandais et anglais. C'était écrit d'abord pour se moquer de la monde, le monde et le mode de l'opéra, qui depuis 1711 et l'arrivée de Handel à Londres commençait à révolutionner le théâtre et prendre trop de place, trop d'importance. On se moque des chanteurs, on se moque de tout. Mais ici, on a une situation qui parle des problèmes d'argent, la pauvreté. Là, cette dernière chanson, « The rich of today may be beggars tomorrow », ça veut dire... Et on entend dans ça exactement Mahasad, les mêmes rythmes et le même message social. Et je trouve la façon dans laquelle John Gay a mis cette chanson, cette pièce très satirique ensemble, et il a eu un succès fou avec ça.
En 1728, ça a été créé à Londres. Mais vous, la première fois que vous l'avez vu, vous aviez quel âge, l'Opéra des Gueux, pour le coup?
Peut-être, oui, 14-15 ans, je l'ai vu au Canada, dans the Stratford Festival, je pense qu'il a monté, je l'avais vu. Mais ça, c'était...
C'était un choc aussi?
C'était pas le même choc, puisque les références culturelles, pour moi, étaient moins fortes, puisque je l'avais vu dans une production du XVIIIe siècle. Et c'est comme... Le Candide de Bernstein, quand je l'avais vu la toute première fois, c'était aussi en costume 18e siècle, mais les messages dans ses œuvres sont toujours très modernes pour leur époque. The Beggar's Opera était donné en costume moderne. Les gens se voyaient eux-mêmes sur le plateau. Ça parlait pour la première fois des prostituées, des maquereaux, des petits voleurs. C'était un scandale en comparaison avec le monde exalté de l'opéra où on voyait des créatures mythiques et des princesses et des rois et des reines dans des situations douloureuses, très extrêmes. Donc pour moi, quand nous avons eu l'opportunité avec William Christie et Les Arts Florissants de monter ça aux Bouches du Nord, qui était une expérience formidable, surtout aussi puisque c'était le théâtre où j'avais tellement vu de productions de Peter Brook, qui est surtout un de mes plus grands héros. C'était un moment plein d'émotions de finalement pouvoir travailler là-bas.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Robert Carson, programme 42e rue. Vous avez mis Beggar's Opera en scène au Bouffes du Nord, c'était en 2018. On sait que le Beggar's Opera, c'est ce qui a donné envie à Brecht et Kurzweil de créer l'opéra de Katsu. Et là, vous avez programmé une chanson de Kurzweil, Stranger Here Myself, par Ute Lemper. Et je m'interroge, vous n'avez jamais mis en scène une seule pièce de Kurzweil ? Il y en a tellement des comédies musicales.
Je n'ai pas fait de comédie musicale. J'ai mis en scène de Mère Courage de Brecht, mais j'ai proposé plusieurs fois, et pour une raison ou une autre, les théâtres avec qui j'étais en discussion, pour une raison ou une autre, finalement, on ne l'a pas fait, mais j'adorais, j'adore Kurzweil.
Et là, But, One Touch of
oui,
Venus.
Oui, One Touch of Venus, c'est une fantastique piece. J'adore tellement l'univers de Kurzweil, et il se trouve que j'ai travaillé deux fois avec Ute Lemper. Et la deuxième fois, c'était pour monter un spectacle autour d'elle qu'on a monté au Théâtre du Châtelet, que j'ai appelé Nomade, qui parlait sur l'isolation qu'on a chacun de nous. Et j'ai demandé à Ute, qui était d'accord pour le challenge, de chanter en 14 langues. Donc elle a chanté dans toutes les langues que vous pouvez imaginer, y compris aussi Portuguese, Spanish, Italian, English, German, French, Yiddish, Arab, Russian. C'était juste absolument bluffant. Elle avait une compréhension totale pour chaque chanson. Et il y avait des chansons de soldats, des chansons pour le paix, de tout. Et donc, j'adore cette artiste. Et c'est elle qui a, à un certain moment, été très, très, très fort pour le faire redécouvrir le monde de Kurzweil. Et il y a aussi une autre liaison, puisque j'ai vu Ute Lemper pour la toute première fois quand elle a incarné le rôle de Sally Bowles à Cabaret, ici à Paris, la première fois que Cabaret était donné au Mogador dans la version mise en scène de Jérôme Savary. Et il se trouvait que j'étais à la première, puisque j'étais jeune comédien et j'avais une amie qui travaille au Mogador, et j'étais à Paris ce week-end-là et on m'a invité de venir à la première. Donc tous ces mondes se retrouvent là.
Ute Lemper, pas dans le rôle de Sally Bowles, mais dans le rôle d'une statue qui prend vie dans One Touch of Venus, cette comédie musicale de Kurzweil.
Tell me is love just a popular suggestion, or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with this heart. I am a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him, or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day, with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, but no one understands. Love me or leave me, seems to be the question. I don't know the tactics to use, but if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted true romance is so fleshly. With what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love
lost its glamour. That passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse when I am a stranger here myself?
Robert Carson, programme 42e rue et programme aujourd'hui Patti LuPone dans cette comédie musicale que vous avez mis en scène, Robert Carson, Sunset Boulevard.
Oui.
Et vous me disiez, vous voyez, avec les comédies musicales, moi je tombe de ma chaise hein, quand vous me parlez pendant les chansons, vous voyez, les paroles ne sont pas mièvres, c'est-à-dire...
Non, mais les paroles aussi dans One Touch of Venus qu'on a entendu avant avec les textes de Ogden Nash sur la musique de Weil, les textes de ces chansons sont absolument formidables et d'une intelligence et d'une et même d'un challenge pour que le public puisse suivre les pensées les plus sophistiquées, les plus développées des caractères. Je trouve que c'est vraiment absolument une chose magnifique de la comédie musicale, certainement de cette époque aussi, que les textes étaient tellement formidables. Et là, dans Sunset Boulevard, que j'ai mis en scène pour Andrew Lloyd Webber après que j'ai monté The Beautiful Game, qui était une première qu'on a fait au West End avec lui, il m'a demandé de faire cette reprise de Sunset Boulevard. Et il y a un paradoxe total, puisque Sunset Boulevard, basé sur le célèbre film, raconte l'histoire d'une comédienne qui était célèbre à l'époque du cinéma muet, qui veut faire une comeback, mais qui aura des problèmes, puisque sa voix n'est peut-être pas adaptée. Et là, dans cette chanson « With One Look », elle parle de son comeback, c'est étonnant, puisque son visage est tellement incroyable. Mais dans les textes qu'elle dit, c'est aussi très, très émouvant de voir comment elle se voit elle-même. Donc, il y a un paradoxe entre le cinéma muet, mais mis en chanson avec un texte magnifique de Don Black.
Robert Carson, vous avez donc mis en scène des comédies musicales d'Andrew Lloyd Webber et vous dites que le musical est la forme d'art la plus complexe. Alors qu'est-ce qu'il y avait de complexe à mettre en scène Sunset Boulevard, par exemple ?
C'est le plus complexe dans le sens qu'on doit jongler avec tellement de balles, puisqu'il y a bien évidemment l'œuvre et l'œuvre scénique, donc la mise en scène en tout, mais on a le rythme qui est donné beaucoup par la danse aussi, qui a toujours une grande, grande, grande présence de danse, mais danse qui doit avoir du sens dans la dramaturgie. C'est pas quand on fait entrer des danseurs. Ben, certainement, il y a des comédies musicales où les danseurs apparaissent juste pour danser, mais pour la plupart du temps, la danse devient l'expression humaine de la situation émotionnelle. Il suffit de penser à West Side Story, par exemple. Il y a la musique et la raison pour laquelle les comédiens passe de le mot parlé, de le mot chantonné, de le chant total, ne parlons pas du chant choral, et l'orchestre et le... Donc il y a tellement de choses qu'il faut tisser ensemble pour faire un spectacle.
Et donc vous avez créé une comédie musicale composée par Andrew Lloyd Webber, ça s'intitulait The Beautiful Game, sur un groupe d'adolescents qui grandissent pendant les troubles à Belfast en Irlande du Nord en 1969, le... Beautiful Game, c'est le jeu merveilleux, c'est le football, ça a été créé en 2000. Comment Robert Carson arrive et travaille avec Andrew Lloyd Webber ?
Puisque un ami en commun, l'écrivain anglais Tom Stoppard, a parlé, le dramaturge a parlé à Andrew Lloyd Webber de mon travail, donc il est allé voir un opéra que je mettais en scène et il voulait me rencontrer, donc une rencontre. Et il était en train de commencer cette collaboration avec Ben Elton qui a écrit le livret et les paroles des chansons et tout. Et donc, il cherchait un collaborateur, donc ils m'ont embarqué dans cette aventure. Et c'était une sacrée aventure puisque pour une comédie musicale, c'était très ambitieux de mettre en relief les problèmes entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, et sur lequel était fait cette Romeo and Juliet story avec deux jeunes qui étaient des backgrounds différents dans un climat de terrorisme en Irlande. Donc il fallait savoir beaucoup sur le football et il fallait incarner un jeu de football sur la scène plusieurs fois. Et puis comprendre culturellement, socialement et politiquement l'Irlande du Nord où ça se passait, où il y avait des familles catholiques contre les familles protestantes, etc., etc. Donc c'était très complexe. Et je pense, et Andrew qui a toujours été très, très, très attiré par des thèmes qu'on peut appeler dark, qui avait une certaine importance sociale, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et là, il voulait vraiment développer ce thème. Donc pour moi, j'ai appris énormément de choses avec Andrew. J'ai appris et c'était fascinant de travailler avec quelqu'un comme lui et de voir comment il développait une partition.
Une des plus belles chansons s'intitule « How Can of Love ». Ça correspond à quel personnage et à qui, à quel moment ?
Oh, ça c'est à la fin. C'est une chanson très triste où tout ça se termine en tragédie Et il y a cette chanson chantée comme une sorte de un thème que l'amour peut survivre à tout. Et c'est une chanson, c'était avant la fin des troubles en Irlande, donc c'est d'imaginer qu'il y a un futur sans ce genre de problème.
Anna Waddingham.
Sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once bright, sir. a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wham. One shot, one gunshot and bam. Hey, Mr. I guess it didn't make it. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, no, nobody is gonna rain on my parade.
Robert Carson, programme 42e rue et programme Barbara Streisand.
Oui, Barbara Streisand, elle est juste absolument incroyable. Elle est, il n'y a pas de mots. Et elle, pourquoi j'ai choisi Barbara Streisand? Puisque je me suis dit, bien évidemment, les personnalités très, très, très fortes sont très importantes dans les comédies musicales des interprètes. Et Barbara Streisand, outre la voix absolument fabuleuse, mais elle me donne l'impression que tout est du jazz, dans le sens qu'on a l'impression qu'elle invente la musique qu'elle chante et qu'elle pense les pensées en chantant pour la première fois. C'est jamais une chanson réinterprétée quand c'est Barbara Streisand, c'est toujours la chanson pour la première fois, les pensées, la musique créée sur l'instant pour communiquer l'émotion qu'elles sont.
Et ça, c'est quelque chose qui vous guide quand vous travaillez avec des acteurs à l'opéra ou dans la comédie musicale?
Ah oui. Oui, je le dis tout le temps. Comme maintenant, j'ai jamais eu cette discussion. Je fais ça pour la toute première fois. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Même là, en parlant, je ne sais pas ce que je vais dire en vous parlant. Et je dis tout le temps aux comédiens, n'oubliez pas que votre texte est seulement une tentative de mettre en parole ce que votre caractère pense réellement. Donc vous devez être accroché, pas comme si c'est des idées déjà complétées dans votre tête, mais des idées que vous êtes en train de développer. Et pendant que vous parlez, vous ne savez même pas si vous dites ce que vous pensez. Dans la vie, on a très rarement l'impression d'avoir dit exactement ce qu'on voulait dire. La communication entre les gens, c'est une tentative de s'exprimer. Et ça, c'est très crucial au théâtre.
On en arrive à ce que vous avez fait au Théâtre du Châtelet en France, Robert Carson. C'était d'abord Candide, avec notamment Anna Christie, que vous aviez transformée en Marilyn Monroe dans l'air des bijoux. Et puis, il y aura ensuite My Fair Lady, Singing in the Rain. C'est vous qui choisissez les chorégraphes, parce qu'à chaque fois, vous faites appel à des grands chorégraphes. C'était Stephen Mear pour Singing in the Rain, Lynn Page pour My Fair Lady. Comment vous travaillez avec le chorégraphe? Vous avez une vision ou c'est lui qui vous apporte ses idées?
C'est une collaboration, donc on parle beaucoup au début. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'idées que j'ai déjà en tête à ce moment-là, puisque j'ai déjà travaillé l'œuvre un petit moment. Et puis, on développe ensemble. Pour moi, c'est toujours très important de voir des esquisses avant que ça devienne complètement fixe, puisque je déteste demander à des gens de refaire ce qu'ils ont fait. Donc, c'est important que je puisse intervenir si je trouve qu'une direction doit aller un petit peu plus dans un sens que dans une autre. Certaines fois, il y a des idées de chorégraphie, des idées que qui va danser. Par exemple, en cabaret, le début de la deuxième partie, ça commence avec un numéro de danse qui s'appelle Kickline. Et une kickline en Broadway, c'est normalement un numéro fait par des filles qui font des kicklines avec leurs jambes et tout ça. Et nous avons Kickline 1 et Kickline 2. Moi, j'ai dit à Fabienne Aloïs que je voyais ça dansé par des hommes et pas par des femmes. Et on terminait la première partie d'une manière très, très, très sérieuse avec le chanson nazi, et on découvre que pratiquement tout le monde partage ce point de vue très sérieusement, et c'est très glauque que je voulais avoir le point de vue de MC qui se moque de tout ça. Donc on a tel le producer ou quelque chose comme ça, où on voit le nazisme et la vanité de ces soldats tournés en dérision. Donc c'est une idée de metteur en scène, mais brillamment chorégraphée par Fabian.
Pour vous faire plaisir, qu'est-ce qu'on écoute, Robert Carson? J'ai deux morceaux, deux enregistrements du Théâtre du Châtelet sous la main. Alors je peux vous proposer I'm an Ordinary Man, interprété par Alec Jennings, dans My Fair Lady, ou je peux vous proposer Moses Supposes par Dan Burton et Daniel Crossley.
Ah non, en ce cas-là, il faut absolument prendre I'm an Ordinary Man par Alex Jennings, un des plus merveilleux comédiens anglais qui a un don pour utiliser le texte en musique. Et là encore, c'est un autre exemple pour moi de l'importance du texte et comment la musique peut valoriser ce texte. My Fair Lady était aussi le deuxième fois que j'ai travaillé avec mon grand ami Anthony Powell, le merveilleux costumier pour le théâtre, pour le cinéma, oscarisé trois fois, qu'on a perdu cette année, et qui a aussi fait les costumes fabuleux pour Singing in the Rain. Et ça, c'était merveilleux de pouvoir travailler avec lui ici à Paris, qui était une ville qu'il adorait.
After all, Pickering, I'm an ordinary man who desires nothing more than just the ordinary chance to live exactly as he likes and do precisely what he wants. An average man am I, of no eccentric whim, who likes to live his life free from strife, doing whatever he thinks is best for him. Just an ordinary man. But let a woman in your life, and your serenity is through. She'll redecorate your home from the cellar to the dome, then get on to the enthralling fun of overhauling you. Oh, let a woman in your life, and you are up against the wall. Make a plan and you will find she has something else in mind. And so rather than do either, you do something else that neither wants at all. You want to talk of Keats or Milton? She only wants to talk of love. You go to see a play or ballet and spend it searching for her glove. Oh, let a woman in your life, and you invite eternal strife. Let them buy their wedding bands for those anxious little hands. I'd be equally as willing for a dentist to be drilling than to ever let a woman in my life. I'm a very gentle man, even-tempered and good-natured, whom you never hear complain, who has the milk of human kindness by the quart in every vein. A patient man am I, down to my fingertips, the sort who never would, ever could, let an insulting remark escape his lips. Just a very gentle man. But let a woman in your life, and patience hasn't got a chance. She will beg you for advice, your reply will be concise, then she'll listen very nicely and go out and do precisely what she wants. You were a man of grace and polish, who never spoke above a hush. Now all at once you're using language that would make a sailor blush. Oh, let a woman in your life, and you are plunging in a knife. Let the others of my sex tie the knot around their necks. I'd prefer a new edition of the Spanish Inquisition than to ever let a woman in my life. I'm a quiet living man who prefers to spend the evenings in the silence of his room, who likes an atmosphere as restful as an undiscovered tomb. A pensive man am I, of philosophic joys, who likes to meditate, contemplate, free from humanity's mad, inhuman noise. Just a quiet living man. But let a woman in your life, and your sabbatical is through. In a line that never ends, come an army of her friends, come to jabber and to chatter and to tell her what the matter is with you. She'll have a booming, boisterous family who will descend on you en masse. She'll have a large Wagnerian mother with a voice that shatters glass. So let a woman in your life. Let a woman in your life. Let a woman in your life. I shall never let a woman in my life.
Comme si vous étiez au Châtelet en 2013 avec Alex Jennings dans cette super production mise en scène par Robert Carson de My Fair Lady avec l'orchestre Padeloup sous la direction de Jace O'Gren. C'était I'm an Ordinary Man par Alex Jennings. Vous étiez ravis, vous étiez tellement attentif à la façon dont Alex Jennings parlait, Alex chantait. Jennings.
Oui, puisque c'est voilà encore un exemple de ce. En plus, le rôle qu'il joue, Professor Higgins, qui apprend à parler bien l'anglais, donc il a cette diction merveilleuse. Et Alex est un comédien formidable qui peut jouer tous les rôles, qui jouait comédie, tragédie, et qui a une compréhension du texte aussi pour les accents, une grande finesse musicale qu'on entend, et il chante très très bien.
Merci beaucoup, Robert Carson.
Merci beaucoup
d'avoir partagé avec nous vos goûts, vos choix pour le théâtre musical. On ira voir Cabaret, que vous mettez en scène, c'est au Lido 2, Paris, sur les Champs-Élysées, avec Sam Buttery et Lizzie Connolly, avec des costumes et une co-scénographie de Luis Carvalho et une chorégraphie de Fabian Aloise, sous la direction musicale de Bob Broad. C'est jusqu'au 3 février. À très bientôt sur la 42e rue.
Au revoir.
La programmation musicale de la 42e rue, vous la retrouverez sur la page 42e rue de l'appli et du site Radio France. Le podcast, vous le retrouverez également dessus et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que vous pourrez en savoir plus et passer encore plus de temps avec vous, Robert Carson, à partir du 23 janvier, puisque vous serez pendant une semaine à l'affiche des grands entretiens de Judith Chen à partir du 23 janvier sur France Musique. Merci à l'équipe qui m'a entouré aujourd'hui, Martine Moni, Barbara Alotto à la préparation, Éric Villenfin à la technique et Colin Gruel à la réalisation. Très bon dimanche sur France Musique.
Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.